Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Le dossier George Floyd qui a marqué la planète, on s'entend, on a vu les manifestations, évidemment, on clame au racisme. Pour ceux qui ont vu ce vidéo-là qui glace le sang, un homme là, qui se fait intercepter, on connaît l'histoire. Cet homme-là, bon, on a des brides d'informations, mais il serait claustrophobe. Il a résisté à rentrer dans la voiture et ça finit par... Il décède par asphyxie parce qu'il y a un policier qui met le genou dans le cou. Il supplie, il appelle à l'aide. Il dit qu'il peut plus respirer. On laisse le genou sur le cou quand même. Il crie même, il demande sa mère. C'est vraiment... Moi, ça m'a choqué de voir ça comme la planète. Mais ces policiers-là, au départ, il y avait des accusations d'homicide involontaire. On ne voulait pas l'intention de le tuer, mais les autres policiers n'étaient pas accusés, mais ça a changé. Là, les accusations sont tombées. C'est du meurtre, accusation de meurtre pour le policier, complicité de meurtre pour les autres. Très sévère, risque 40 ans. Et on voulait analyser tout ça avec Maître Jean-Pierre Rancourt, criminaliste qui connaît bien, qui est aux États-Unis aussi. Donc, bonjour, Maître Rancourt.
Bonjour à vous.
Comment vous voyez ce dossier-là?
Ben, on est outragé, je le suis autant que vous. C'est épouvantable, mais vous savez, ça a pris du temps avant qu'on accuse le premier policier. Si ça avait été un citoyen qui avait agi comme ça, il aurait été arrêté sur les lieux, détenu puis accusé immédiatement.
Ouais.
Comme c'est un policier, on a attendu qu'il y ait des émeutes un peu partout, puis il y a pression politique, j'imagine. Là, on l'a accusé au début d'homicide involontaire. L'homicide involontaire, il faut savoir que c'est... tu commets un crime, par exemple, un voie de fait, sur quelqu'un. Tu n'as pas l'intention de le tuer, mais tu te fous pas mal de ce qui va arriver.
Mm-hmm.
Alors, tu fais un voie de fait, puis le gars meurt, c'est un homicide involontaire. Mais là, on a changé les accusations parce que probablement qu'on a la preuve par des vidéos puis des témoins que l'individu, en plus de commettre un voie de fait, savait très bien qu'il était en train de le tuer et avait l'intention de le tuer. C'est ça qu'on va devoir prouver au procès.
OK. Donc, il y a cet élément-là hein, de dire que quelqu'un, l'intention de tuer a des variantes. Dans le sens, si on fait de quoi qu'on sait très bien que la personne pourra en décéder, je pense que l'intention se crée comme ça, Maître Rancourt.
Oui. Si on fait quelque chose, un geste, là, sachant très bien que la mort peut arriver,
mm-hmm.
ou qu'on s'en fout carrément qu'il meure ou pas, ça peut équivaloir à un meurtre.
À cette intention-là. OK, je comprends bien. Et parce que là aussi, il y a tout l'élément des policiers qui... Bien, premièrement, allons-y, c'est théoriquement, le policier a le droit d'utiliser une force. Là. C'est pas un citoyen. Le policier a plus de pouvoir, mais il faut qu'il l'utilise d'une manière spécifique. Là. Il ne peut pas faire ce qu'il veut, comme dans ce cas-là. Là.
Absolument. Le policier a un pouvoir de d'arrêter quelqu'un et de prendre la force nécessaire pour l'arrêter. Il faut qu'il y ait des motifs pour l'arrêter. Mais après ça, une fois qu'on a les motifs, ben on a l'autorité. Et si l'individu se débat, si par exemple, il y avait une arme, etc., alors c'est dépendant toujours de ce que la présumée victime ou l'accusé éventuellement, la façon dont il va agir, va permettre au policier d'appliquer plus de force.
Mm-hmm.
Mais dans le cas qui nous préoccupe, lorsque l'individu est couché à terre, on le voit là, très bien, il demande à respirer, il ne bouge plus, là, t'arrêtes, tu ne vas pas plus loin que ça. Alors, on voit bien que le policier se foutait carrément, il ne savait pas qu'il était filmé, là, parce qu'il semble-t-il que c'est une jeune fille de 17 ans qui a pris ce film-là, et puis, mais il me semble que les policiers aujourd'hui devraient savoir que tout se fait partout où à chaque fois que tu arrêtes quelqu'un, il y a toujours quelqu'un aux alentours qui va filmer. Donc, ça devrait, me semble, faire en sorte que les policiers vont agir de façon plus raisonnable.
Ah ouais, puis c'est dur à imaginer que des gens qui sont nommés en autorité puissent être méchants comme ça. Là. C'est ça qui nous frappe. Et là, ce qui nous frappe encore plus, c'est qu'on dit il n'est pas. T'sais, un individu qui est malsain comme ça, on comprend mal, mais on peut peut-être l'expliquer. Mais là, il y a des collègues qui sont là, qui laissent faire ça. Comment mettre en cours cette complicité-là se crée avec les collègues, là?
Bien, on sait qu'il y avait trois autres policiers aux alentours. Moi, j'ai entendu parler qu'il y en a un ou deux qui avaient appliqué un petit peu de force sur le dos. Bon, ça c'est de la complicité. C'est aider l'autre individu à le tuer. Okay. Mais aussi par le fait que ces trois policiers-là sont alentours, faire en sorte que personne ne peut venir aider la victime, ben c'est comme s'il encourageait ces gens-là, ces trois policiers-là, encouragent l'autre à commettre le crime. Donc, la complicité, c'est ça, c'est d'encourager quelqu'un ou de faire des gestes ou des omissions qui feraient en sorte que ça aide l'individu à commettre son crime. Alors, c'est dans ce sens-là qu'ils sont accusés de complicité.
OK. Parce que si on prend l'exemple, un passant qui est témoin ou quelqu'un qui fait rien, on peut peut-être... Je sais que vous connaissez bien le droit américain autant que canadien, là, mais quelqu'un qui fait rien, qui fait seulement assister à un crime, il peut-tu être complice?
Non. Parce qu'on n'a aucune obligation en tant que citoyen. On voit qu'un crime se commet. On n'a aucune obligation d'arrêter ce crime-là, là, okay. D'intervenir pour sauver une vie. On n'a pas d'obligation. Et habituellement, les autorités nous disent, ne faites pas ça parce que c'est dangereux pour vous. Alors, on n'a pas d'obligation. Donc, on ne pourrait pas être accusé si on fait rien. Mais quand on est policier, puis on a des obligations et on fait en sorte qu'on protège une scène de crime, puis on assiste au crime, puis on aide de quelque façon que ce soit celui qui commet le crime, ben, c'est la complicité.
OK, c'est là qu'elle se crée. Puis, par exemple, ce geste-là d'aider, je pense qu'il n'est pas obligé d'être très... n'est pas obligé de tenir le couteau quand il y a un crime. Là, je pense
que
quelqu'un qui fait le guet, là, mettons, pendant qu'un autre commet un crime, là, c'est assez pour l'impliquer, là.
Oui, parce qu'il aide. C'est ça que la complicité, la définition, c'est quand vous aidez quelqu'un à commettre un crime, soit par vos paroles, soit par vos gestes, que vous l'encouragez à commettre le crime. Hein. Continue, fais-le, tu devrais appliquer la violence davantage. Ces paroles-là, c'est de la complicité.
OK, je comprends bien. Et là, cette complicité, parce qu'on s'entend, ben, je pense que pour nos auditeurs, on comprend bien le mot meurtre, le meurtre deuxième degré. Mais être en cours deuxième degré aux États-Unis, ça ressemble à ici. Là. C'est ce meurtre-là qui n'est pas prémédité, souvent dans le jargon qu'on appelle.
Exact. Le meurtre au premier degré, c'est la préméditation, c'est-à-dire que c'est organisé, on s'organise, on le sait qu'on veut tuer quelqu'un et on amène, par exemple, une arme avec nous autres, on a prémédité notre geste. Tandis que le meurtre au deuxième degré, ça survient lorsque il y a une altercation entre deux personnes, par exemple. On n'avait pas l'intention de le tuer, mais au moment où l'altercation commence, on a l'intention de le tuer, on n'a pas prémédité, on n'a pas préparé notre coup.
OK, on n'a pas préparé vraiment. Je comprends bien. Voilà. Et là, c'est ce qui est du meurtre. Et les complices, si je comprends bien, ils risquent, sont aussi coupables que celui qui a commis, qui a causé la mort. Là. Eux autres, ils risquent autant d'années d'emprisonnement?
Oui, ils pourraient peut-être avoir un peu moins parce que c'est pas eux autres qui ont causé le geste fatal. Mais on parle d'un minimum probablement de 40 ans pour le policier qui a tué, qui est déclaré coupable. Alors, les complices pourraient peut-être avoir entre 10 et 30 ans, là, dépendamment de leur participation.
OK, c'est ça. Puis eux, ça risque d'être, au final, un peu moins de sentence. Là.
Peut-être un peu moins, par le biais de la complicité. Alors, à ce moment-là, il y aurait peut-être un peu moins, mais ils pourraient avoir la même sentence aussi.
OK, je comprends. Et pour bien comprendre aussi, quelqu'un qui prend 40 ans aux États-Unis, parce qu'ici, souvent, on en discute, on dit, bon, on le sait, il y a 40 ans, mais il va sortir après tant d'années. Je ne sais pas si Maître en cours, si vous savez, aux États-Unis, y a-t-il une libération conditionnelle aussi, là?
Il y a pratiquement pas de libération conditionnelle aux États-Unis.
Okay.
40 ans, si on s'entend, c'est 40 ans. Mettons qu'il n'y a pas de minimum, là. C'est 40 ans maximum. Ben, il va faire entre 33 et 38 ans.
OK.
Il n'y a pas trop de libération. La libération conditionnelle, ça n'existe pas tellement là-bas.
C'est plus sévère, là, vraiment, pour ce qui est des libérations conditionnelles. OK, ouais, c'est ça.
Ouais, c'est pour ça que les Canadiens qui sont pris là-bas puis qui écopent de sentence de 3, 4, 5, 6 ans font des demandes de venir purger ça au Canada parce qu'à ce moment-là, ils vont avoir des libérations conditionnelles. Alors que là-bas, si tu attrapes 6 ans, tu vas faire 5 ans et demi. Okay. Alors qu'au Canada, ça va faire 2 ans.
Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Donc, il n'y a pas d'histoire de comme ici, un deuxième degré. Souvent, il y a une période, c'est à vie, mais il y a une période qu'on peut demander à libération conditionnelle. Là-bas, c'est vraiment plus ferme, là. Parce que si si ça avait été un État où est-ce qu'il y a la peine de mort, ce genre de crime-là, est-ce que c'est la peine de mort ou?
Non, pas nécessairement. Alors, il faudrait que ce soit un meurtre au premier degré, okay, avec préméditation. Mais au deuxième degré, il n'y a pas de peine de mort.
OK, je comprends. Et il y a un élément, Maître Anco, je voulais vous entendre là-dessus. On spécule, évidemment, on analyse, on ne sait pas tous les détails. Mais ce policier-là aurait déjà travaillé avec George Floyd. Là, il était dans la sécurité ensemble, c'est de l'information qu'on a. Ça, est-ce que ça vient jouer dans l'équation? Est-ce que ça aurait pu, parce qu'ils se connaissaient, être un meurtre premier degré là, avec préméditation?
Non, il faudrait que la couronne soit capable de prouver que il y avait eu des altercations et que le policier en voulait à l'autre individu et que lorsqu'il a eu la chance, bien, il a décidé de le tuer. Là, on pourrait aller jusqu'à une préméditation, mais on est loin de là.
OK, je comprends. Donc, on n'ira pas, on n'extrapole pas trop non plus parce qu'il faut quand même le prouver. Évidemment, bien là, tout ouais, ça va procéder. C'est des procès devant jury, puis j'imagine on a petit bout là, de c'est-tu des longs délais aux États-Unis avant qu'ils soient jugés?
Aux États-Unis, c'est des procès qu'on appelle expéditifs, à moins que l'accusé renonce à ça.
Okay.
Donc, si l'accusé ne renonce pas, le procès assez rapidement, là, un appel de même peut se faire en 6 mois.
OK, je comprends. Bon, on suivra ça de près. Merci beaucoup, Maître Encourt. Très éclairant.
Merci, bonne journée.
Bonne journée, bye-bye.
Bonjour.